c'est très exactement Hélène Philly qui présente le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Dans les coulisses des ateliers législatifs pour coacher, brainstormer, former en d'autres termes les candidats de la majorité, nous avons pu nous y glisser aujourd'hui au doc d'Aubervilliers, de quoi comprendre la stratégie en marche à un mois du premier tour. La guerre en Ukraine va durer et Moscou ne s'arrêtera pas au Donbass. C'est la conviction des renseignements américains 67 jours après le début du conflit. L'actualité, c'est encore le procès yéménien à la compagnie accusée de ne pas avoir formé suffisamment ses pilotes. La fin possible de la vignette verte sur la voiture. Et puis une gare de Moselle chargée d'histoire qui est à vendre sur le Bon Coin à un prix ahurissant. Et au téléphone sonne, Fabienne.
C'est bien dire que les prix grimpent est un euphémisme. L'énergie, bien sûr, mais la farine, le café, l'huile, les tomates, vous ne le découvrez pas. Sauf que faire cesser cette hausse, ça ne se décrète pas. Vous avez entendu dans la bouche des politiques qu'il faut bloquer les prix, bousculer la TVA, faire des chèques ponctuels aux ménages. Quelle solution est la plus adaptée? Quelles sont les fausses bonnes idées? Faut-il jouer sur les salaires et pour quelles conséquences? Tout cela dans le téléphone sonne avec vous au 01 45 24 7000.
France Inter.
Si le gouvernement se fait attendre, la campagne des législatives passe clairement à la vitesse supérieure. Les photos de famille se succèdent. La gauche unie le week-end dernier au doc d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Et la majorité au même endroit toute la journée aujourd'hui pour se mettre en ordre de bataille. Le gros des troupes en mode team building, dirait-on, stratégie et toute une série d'ateliers de formation au sein desquels France Inter a pu se glisser. La petite souris se nomme Simon Le Baron. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Vous savez tout, des bons conseils et des éléments de langage?
Alors pas tous, mais une partie en tout cas, puisqu'on a suivi l'atelier communiquer en campagne.
Et on attaque.
On attaque avec Christophe Castaner, le chef de file des députés En Marche, et un bon conseil.
N'essayez pas de ressembler à Emmanuel Macron. Ça touche au blasphème. D'ailleurs, c'est moche.
Un élément de langage aussi, l'adversaire numéro un, c'est l'union de la gauche.
Et là, on voit bien comment le mariage de la carpe et de tous les petits lapins fait qu'il y a une contradiction dans l'essence même de ce qu'ils veulent. Et là, vous trouvez l'entrée qui vous arrange pour la démontrer.
Place au fond, justement, atelier bilan et programme. Et ce député qui voudrait bien savoir que répondre aux électeurs qui se sentent toujours abandonnés après 5 ans de macronisme.
Mais qu'est-ce qui fait nom d'un chien qu'à un moment donné, quand on fait tant de choses plutôt bien, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'imprime pas ce truc-là dans un chien?
Première chose.
Réponse chiffrée de la ministre de la fonction publique, Amélie Montchalin.
Un, France Service, il y en a 2200 aujourd'hui en France, il y en aura bientôt 2500. 85% des Français ont aujourd'hui, à moins de 20 minutes de chez eux, un lieu pour faire toutes leurs démarches administratives.
Des conseils et une journée suivie assidûment par les novices.
J'apprends plein de choses, effectivement.
Comme Sarah Tanzili, même si, comme beaucoup de nouveaux candidats, elle n'est pas une débutante en politique.
J'ai été 5 ans collaboratrice parlementaire, donc le bilan, je le connais, le projet, je le connais, mais c'est vrai que sur le plan de la méthode, c'est très intéressant.
Des troupes moins amateurs qu'en 2017 et surtout choisi par Emmanuel Macron, c'est lui, personne d'autre qui les motive d'ailleurs en ce moment même. À huis clos, son futur Premier ministre est prévenu, ici il n'y a qu'un seul chef.
Simon Le Baron et Nicolas Mathias pour le ton de la campagne. En marche, il y a encore un peu moins de 70 circonscriptions en suspens et dans la majorité aussi quelques crispations. Celui qui avait versé une larme il y a 5 ans pour l'investiture d'Emmanuel Macron, l'un des tout premiers marcheurs, Gérard Collomb, est aujourd'hui en colère parce qu'aucune des candidatures que l'ancien maire de Lyon défendait n'a été retenue. On prend acte, dénonce ses proches auprès de la tribune de Lyon, ils n'auront pas leur soutien. Et à l'extrême droite, y aller ou pas, Éric Zemmour n'a toujours pas décidé, mais ses équipes lorgnent bien sur une circonscription. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
La quatrième du Var, celle de Saint-Tropez.
Oui, depuis quelques jours dans cette circonscription, la rumeur d'une candidature Zemmour ne fait que s'amplifier. Plusieurs indices, si Reconquête a investi ses candidats dans toutes les autres circonscriptions du Var, celle-ci a été gelée. Un temps pressenti, Marc-Étienne Lansade, maire de Cogolin, ex-RN, s'est mise en retrait. Selon plusieurs sources, une enquête d'opinion a aussi été menée auprès des habitants testant la notoriété de l'ex-candidat à la présidentielle. Des élus RN ont également été approchés pour connaître leur opinion sur un éventuel parachutage d'Éric Zemmour. À quelques jours du dépôt de candidature, les équipes de Reconquête semblent donc tâter le terrain car l'enjeu est primordial, ne surtout pas envoyer leur meilleur chef au casse-pipe, car s'il a réalisé l'un de ses plus gros scores à Saint-Tropez, la circonscription a malgré tout placé en tête Marine Le Pen au premier tour. Et le candidat RN investi compte bien jouer sa partition, sans oublier un important vote macroniste sur un territoire qui abrite le fort de Brégançon. La bataille serait donc rude, de quoi nourrir encore un peu les hésitations.
Et Marine Le Pen qui a lancé sa campagne ce week-end à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais après 15 jours de silence sera ce soir l'invité du journal de TF1.
La compagnie Yemenia Airways a-t-elle mal formé les pilotes de l'avion qui s'est crashé il y a 13 ans au large des Comores?
Le procès se tient depuis hier au palais de justice de Paris parce que parmi les 152 victimes, 65 sont françaises. La compagnie doit répondre de blessures et homicides involontaires. Elle devra aussi expliquer pourquoi elle a maintenu les atterrissages de nuit aux Comores malgré des problèmes d'éclairage au sol. Deux experts aéronautiques étaient entendus cet après-midi. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Ils ont décrit la confusion qui semblait régner dans le cockpit avant le drame.
Oui, et pour l'apercevoir, le tribunal remonte le fil de la catastrophe. Vous pouvez quitter la salle quand vous le souhaitez, annonce d'entrée la présidente au parti civil. Certaines craquent quand sont montrées les photos des débris de l'Airbus. Ici une aile, là un morceau trop abîmé pour être identifié. Les pilotes n'avaient plus la maîtrise de la situation, résume à la barre l'un des deux experts. L'équipage n'a pas reçu la formation obligatoire pour se poser à Moroni, aéroport dont l'approche est pourtant réputée complexe. À cela viennent s'ajouter ces problèmes d'éclairage, une constitution des derniers instants de vol est projetée dans la salle. Un virage pris 15 secondes trop tard. L'appareil qui s'éloigne de la trajectoire prévue perd en altitude. L'avion ne peut faire qu'une seule chose, c'est décrocher, poursuit l'expert fataliste. Et là non plus, les pilotes ne semblent pas préparés, les réactions ne sont pas les bonnes, malgré les nombreuses alarmes qui résonnent dans le cockpit. C'est un déficit de niveau professionnel, juge l'un des spécialistes. Dans la salle d'audience, la reconstitution se poursuit. Sur l'écran, l'appareil s'approche de l'eau. La présidente coupe la projection. L'enregistrement des derniers mots des pilotes a pu être récupéré. De l'eau, on est perdu. Il est 22h50 à Moroni, le vol Yemenia 626 disparaît des radars.
Compte rendu d'audience signé Ariane Grissel. Et au palais de justice de Paris où vous vous trouvez, un autre procès attire l'attention parce que plus qu'hors normes, six anciens responsables des renseignements des douanes sont jugés depuis hier, accusés d'avoir monté toute pièce une fausse prise de café de contrebande, 43 tonnes tout de même à l'été 2015, dans le seul but de gonfler les chiffres de leur saisie. Hier, les avocats de la défense ont échoué à les faire juger à huis clos. Les débats ont donc commencé aujourd'hui. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Avec le témoignage de celui qui est considéré comme le cerveau de l'affaire.
Oui, le créateur présumé d'un véritable système d'escroquerie en bande organisée pour gonfler les statistiques, effectivement. Vincent Sauvalaire, star déchu du service de renseignement des douanes, ancien chef des opérations, pour mon plus grand malheur, dit-il. Depuis plus de 3 heures maintenant à la barre, il clame son innocence. Il n'a jamais digéré de se retrouver menotté devant la juge d'instruction, mise en examen pour corruption pendant 3 ans, avant que cet aspect soit effacé. C'est trop facile de dire que j'étais derrière toutes les affaires. Les casseroles, oui, je connaissais, dit-il, l'informateur Z comme Zoran Petrovic. C'est cet informateur sulfureux qui est au cœur de l'histoire de vraies fausses importations de café contrefait. Il nous avait permis de réaliser une très grande affaire de saisie de cigarettes avec des Chinois sur Paris. Mais des informateurs comme lui, on en avait bien d'autres. Je ne le gérais pas en direct. Ces différentes immatriculations, ces différentes identités. Et pour l'affaire du Havre, j'étais parti depuis 2 ans, précise-t-il. Vincent Sauvalaire propose depuis le début d'après-midi une plongée abyssale dans les guerres intestines au sein du service de renseignement des douanes à la fin des années 2000. Les guerres avec les flics, des stupes, des agents de terrain m'ont chargé dans plusieurs dossiers. Ils me détestaient, assure Vincent Sauvalaire, car avec moi tout était régulier. Le grand déballage ne fait que commencer.
Et le procès doit durer jusqu'au 9 juin prochain. Cette question encore, Éric Dupond-Moretti, sera-t-il jugé? Le ministère public demande en tout cas un procès devant la Cour de justice de la République pour le garde des Sceaux, soupçonné d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats.
Vladimir Poutine n'a pas l'intention de s'arrêter au Donbass.
C'est la conviction de la chef du renseignement américain, dont les informations sur l'invasion de l'Ukraine se sont révélées jusqu'ici plutôt justes. Correspondance à Washington, signée Sébastien Paour.
Avril Haines s'était auditionnée au Congrès sur les menaces globales auxquelles les États-Unis et leurs alliés font face dans le monde, et elle reste sur la ligne choisie par Washington depuis le début et même avant le début de la guerre en Ukraine, livrer un maximum de renseignements sur la stratégie russe pour la contrôler ou la contrer au mieux. Et donc la directrice du renseignement américain donne toute une liste d'informations sur la suite du conflit du point de vue de Moscou. Elle dit que Vladimir Poutine n'a pas l'intention de limiter sa volonté d'occupation à la seule région du Donbass en Ukraine, qu'il veut aller plus loin et engager la guerre aussi en Transnistrie, cette région de Moldavie qui a fait sécession en 1990. Avril Haines estime aussi que le chef du Kremlin compte sur un essoufflement du soutien des Occidentaux à Kiev, qu'il se prépare à un long conflit et qu'il va probablement imposer la loi martiale en Russie. La patronne du renseignement US s'est aussi arrêtée dans son propos liminaire sur un recours possible à l'arme atomique de la part des Russes, et elle est plus rassurante sur ce point, si l'on peut dire. Les États-Unis, dit-elle, continuent de penser que Poutine n'autorisera l'usage de l'arme nucléaire que s'il perçoit une menace existentielle pour l'État ou le régime russe. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et au 76e jour de guerre, près des deux tiers des habitants de Kiev sont revenus dans la capitale ukrainienne, mais le pays compte toujours plus de 8 millions de déplacés à l'intérieur de ses frontières. C'était il y a un an, 260 Palestiniens tués, 14 Israéliens civils et combattants au terme de 11 jours de guerre. Un an jour pour jour après le début de ces hostilités meurtrières, et alors que les tensions sont vives ces dernières semaines, le correspondant de France Inter à Jérusalem a pu se rendre à Gaza. Bonsoir Frédéric Mettezo.
Bonsoir à tous.
Vous êtes l'un des rares journalistes étrangers sur place parce qu'il faut le dire, Israël a refermé sa frontière avec Gaza.
Oui, et Gaza bouclé, c'est une économie encore plus étouffée. Plus de 50% de chômage et les 14 000 Gazaouis qui travaillent normalement en Israël bloqués ici. Depuis un an, les ruines ont été déblayées, mais on ne reconstruit pas Gaza. En fait, des entreprises du BTP égyptien construisent de nouveaux quartiers au bord de la Méditerranée. Des résidences, on ne sait pas pour qui, me raconte un Gazaoui. Et surtout, sur ces chantiers, on ne retrouve que des Égyptiens et pas de Palestiniens. Ajoutons les effets économiques de la guerre en Ukraine. Une inflation de 17 à 26% pour l'huile, le blé ou les lentilles. Le prix du kilo de poulet a doublé. Des hausses spectaculaires aussi pour l'alimentation du bétail et pour l'essence.
Et que vous ont dit les Gazaouis avec qui vous avez pu discuter, Frédéric ?
Eh bien, les civils ont peur d'une nouvelle guerre, surtout après les violences à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem pendant le Ramadan. Hier, par exemple, un avion de chasse israélien a passé le mur du son et les gens ont cru à un bombardement. Après les derniers attentats, les autorités israéliennes dénoncent aussi les discours ultra-violents du chef du Hamas à Gaza et le débat est ouvert. Faut-il liquider ce dernier ? Le Hamas, mouvement islamiste classé terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne, le Hamas craint des assassinats ciblés.
Frédéric Mettezo en direct de Gaza pour France Inter.
Et à 19h presque 13, Hélène, ce constat, les lesbiennes se sentent toujours discriminées au travail.
Et plus que les hommes, c'est le résultat d'une enquête IFOP pour l'association L'Autre Cercle. Plus de la moitié des femmes interrogées disent avoir subi au moins une discrimination ou une agression au travail. Témoignage au micro de Lucie Rispal.
En 2018, Aurore Fourcy, 39 ans, change de travail. Elle intègre une entreprise d'agroalimentaire en région parisienne. Comme elle l'a toujours fait au cours de son parcours professionnel, elle ne cache pas son orientation sexuelle à ses nouveaux collègues.
Ah, c'est souvent le « Ah bon ?» Et alors ça, c'est hyper chiant parce qu'on se retrouve à devoir se justifier en disant « Ben oui, je suis lesbienne, oui, j'ai les cheveux longs, oui, je suis maquillée, oui, je suis lesbienne. » C'est un sentiment de devoir se justifier sur qui on est. C'est très pénible.
Si pour Aurore, il n'y a pas de tabou, elle essuie toujours des remarques qu'elle qualifie de maladroites.
Un collègue m'a dit « Ah, c'est quand même pratique que tu sois lesbienne parce que au moins, tu n'auras pas à poser de congé maternité. » Ben, en quoi les femmes lesbiennes ne peuvent pas avoir d'enfants, ne peuvent pas avoir leur famille ? Et ça, c'est le typique.
Discrimination, harcèlement moral, sexuel, les salariées lesbiennes sont mises à rude épreuve, surtout dans les domaines d'activité où les hommes sont nombreux. Catherine Tripon, porte-parole nationale de l'association L'Autre Cercle.
Généralement, là, vous avez du machisme, vous avez du sexisme, vous avez de LGBT-phobie et vous avez évidemment de la lesbophobie. Vous avez évidemment des secteurs qui sont plus masculins, le monde de l'industrie, le monde du transport. Voilà, ce sont des environnements où le taux de personnes qui subissent des discriminations qui sont moins visibles est beaucoup plus élevé que la moyenne, effectivement, la moyenne nationale.
Des situations stressantes qui ont poussé 34% des femmes à quitter leur emploi.
Reportage Lucie Rispal. La vignette verte sert-elle encore? C'est la question que pose aujourd'hui la présidente de France Assureur, car il existe un fichier des véhicules assurés depuis plusieurs années et c'est finalement beaucoup plus fiable, juge Florence Lussmann.
Le fichier informatique, il a une fiabilité qui est supérieure à 99%. D'ailleurs, les forces de l'ordre utilisent déjà ce fichier des véhicules assurés. Ils l'interrogent à peu près 20 000 fois chaque jour. Donc vous voyez, on a pu vérifier depuis plusieurs années la fiabilité de cet instrument. On pense que là, il est suffisamment testé, suffisamment fiable pour basculer et pour supprimer purement et simplement les documents papier. Et puis, accessoirement, ce sera positif pour la planète, pour la transition écologique, puisque nous imprimons, donc c'est du papier et de l'encre, on imprime 50 millions de ces papiers verts chaque année et on les achemine. Donc bilan carbone, papier, encre, vous voyez que tout ça est positif pour la planète.
La présidente de France Assureur au téléphone de Mariam El-Kurdi. Elles sont 20 femmes et 18 témoignent à visage découvert, côte à côte, contre PPDA, qu'elles accusent d'agression, voire de viol, devant les caméras de Mediapart, qui donnent aussi la version du journaliste. Il n'y a pas de système, simplement quelqu'un qui s'est comporté de façon odieuse, charge aussi l'ancien patron de TF1 dans cette émission de 2h30 inédite, et c'est aussi un article à lire sur franceinter.fr. Cette fois, c'est la bonne pour la nouvelle version du baccalauréat. L'épidémie de Covid a bousculé l'organisation des deux dernières années. C'est donc la première fois, à partir de demain, que les élèves de terminale vont plancher à l'écrit sur les épreuves de spécialité. Et ça compte quand même pour un tiers de la note. Julien Penaud a assisté aux dernières révisions au lycée Delambre-Montaigne à Amiens.
Les dernières consignes de Vincent Birdi, enseignant d'histoire-géographie, sont données face à une douzaine de lycéens.
Une dissertation et une étude de documents.
Quelques prises de notes, mais surtout beaucoup de stress. Noah est en spécialisation sciences politiques et littérature anglaise.
C'est quand même Coef 16, du coup c'est ça qui va décider si on a le bac ou pas le bac.
À ses côtés, Lorenzo reste lui serein, mais sait que ce bac 2022 est un peu particulier.
Ça fait 3 ans qu'à chaque fois les réformes elles changent et tout. Les années précédentes, genre les 2002, les 2003, ils disaient se les taper, mais au final, c'est nous qui les avons. Au final, c'est un peu nous les cow-boys, quoi.
Qu'est-ce que ça change pour un enseignant, alors?
Quand même, c'est pas pareil qu'avant. En gros, les élèves ont l'impression de bachoter plus. Ils ont le contrôle continu en plus des épreuves de spécialité. Ils ont l'impression, à raison, que chaque note compte pour le bac. Et donc du coup, il y a un stress qui est beaucoup plus permanent.
Une angoisse que comprend le proviseur Patrice Pertin.
Pour eux, c'est une grande première, puisque c'est la première épreuve de spécialité qui va être passée vraiment à l'écrit, comme ça aurait dû être depuis le début.
Créer des couacs?
Des couacs, non. Des surprises peut-être dans les épreuves, mais ça, on le saura à l'ouverture des sujets. Les professeurs nous diront si c'est dur, si c'est pas dur, comme toute épreuve au baccalauréat depuis qu'on le connaît.
L'organisation en elle-même des épreuves ne change pas. Un détail, la distribution des sujets est personnalisée en fonction des deux spécialités choisies par le candidat.
Un reportage France Bleu Picardie. Et on en vient à cette gare chargée d'histoire en Moselle qui se retrouve à vendre sur le Bon Coin et à un prix qui indigne la commune. La gare d'Avricourt, construite par l'Empire allemand au XIXe siècle, désaffectée depuis 1969, monument historique qui a été acheté il y a 4 ans par un chef d'entreprise qui voulait la réhabiliter, mais qui aujourd'hui veut la revendre dans le même état, 12 fois moins cher, Doris Henry.
Un prix de 940 000 euros demandé par le propriétaire actuel, un chef d'entreprise de Sarrebourg, alors que lui-même avait acheté la gare en 2018, moins de 70 000 euros et qu'il n'a depuis fait aucun travaux de réhabilitation. Éric Thomas, le président du comité de sauvegarde de la gare.
Elle ne vaut pas du tout cet argent-là. Qu'elle soit en vente, c'est une chose, à la limite, si le propriétaire actuel ne peut pas faire quoi que ce soit dedans, qu'il la revende à quelqu'un qui veuille faire quelque chose, c'est bien. Maintenant, après, à ce tarif-là, ça décourage tout le monde.
Le projet du propriétaire était de transformer cette gare en un lieu de réception pour des mariages et des séminaires, mais il a uniquement financé des plans d'architectes qui d'ailleurs sont joints à l'annonce. Éric Denis est le maire d'Avricourt.
Moi, j'ai eu un entretien avec lui. Je pense qu'il a été dépassé par les événements. Il m'a dit avoir eu plus de 130 000 euros de frais d'architecte. Mais bon, on sait très bien que lorsqu'on classe un bâtiment au monument historique, automatiquement, les travaux qui seront générés par la suite seront beaucoup plus conséquents qu'un bâtiment normal qui ne l'est pas.
Le maire qui précise qu'il va aussi, de son côté, se rapprocher de potentiels nouveaux investisseurs.
Et vous m'aurez corrigé, la gare est vendue aujourd'hui 12 fois plus chère qu'il y a 4 ans. C'était un reportage de Doris Henry de France Bleu Lorraine.
Ouais, vous demandez pourquoi les investisseurs étaient découragés. Merci beaucoup Hélène Filly. À demain, bien sûr, pour le journal. Dans un instant, pour nous, c'est le téléphone. On va parler d'augmentation des prix ce soir. Vous êtes déjà nombreux et c'est tant mieux. Un œil sur le ciel juste avant.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Élodie Calac, encore ensoleillé pour le temps de demain, mais plus nuageux quand même sur les côtes de l'Ouest.
Oui, près de la Manche, on a une perturbation qui circulera avec du vent jusqu'à 60 km à l'heure. Pas mal de nuages, mais seulement quelques gouttes sur la Bretagne et le Cotentin. En remontant vers le Nord-Pas-de-Calais, là, de belles éclaircies. Près de l'océan, il faudra composer avec la grisaille le matin, mais le soleil reprendra sa place. Et puis partout ailleurs, du soleil. Juste quelques nuages sur le sud des Alpes et la Corse l'après-midi avec une rare averse. En vallée du Rhône, il faudra composer avec un vent de sud demain jusqu'à 60 km à l'heure. Et même chose du côté de l'Aude jusqu'au midi toulousain pour le vent d'automne qui atteindra lui aussi 60 km à l'heure.
Et puis encore de la chaleur.
Oui, petite baisse sur le nord-ouest mais très chaud ailleurs. Alors 18 degrés à Brest, 22 à Nantes et à Biarritz, 23 à Lille, 27 degrés à Paris, à Marseille, 29 à Limoges et à Grenoble, 30 degrés pardon, à Strasbourg, à Bourges, 31 à Clermont-Ferrand et à Montauban et 32 du côté d'Auch. Et puis jeudi, plus de nuages avec un risque d'averse et d'orage de l'Aquitaine au nord-est. Petite baisse des températures mais nouvelle hausse pour la fin de la semaine.
Fabienne. Et Lodi Calac de Météo France, merci beaucoup.